France Musique. Les grands entretiens, Benjamin François.
Bonsoir, je m'appelle Rinaldo Alessandrini, je suis musicien, je m'occupe de musique baroque, mais pas seulement de musique baroque.
Rinaldo Alessandrini, dans les 35 ans du Concerto Italiano, il y a dû avoir des aventures incroyables, d'avions ratés, de choses comme ça. Est-ce que vous avez comme ça quelques anecdotes qui vous restent à l'esprit et qui, quelque part, aujourd'hui, vous font encore rire? Parce que je sens pas un tempérament où vous avez beaucoup envie de rire, Rinaldo Alessandrini, ou c'est un moment de votre vie où vous riez pas beaucoup?
Moi, disons que l'image la plus épouvantable dans ma vie, c'était ici à Paris, à Gare de Lyon. On allait prendre un train. Et l'image, c'est les portes du train qui ferment juste à 2 cm de l'harpe qui rentre dans le train. Parce qu'on est arrivé au tout dernier moment. On a couru tout le temps et on est arrivé vraiment pile, comme ça. Et on s'est dit, jamais plus. Probablement, oui, c'est l'image la plus forte de ma vie. Après, oui, la grève, retard, mais je ne me souviens pas.
Vous aimez cet aspect de votre vie, les voyages incessants, les hôtels, les transports?
Oui et non, ça dépend. Les transports, moi j'ai la chance que je peux dormir dans toutes les positions possibles. Et je suis un peu le problème de mes collègues qui, en général, dans les voyages pour aller au Japon, n'arrivent pas à dormir un seul second. Moi, je peux dormir 8 heures filées sans problème, même dans l'avion. Mais c'est un avantage tout à fait personnel.
Rinaldo Alessandrini, pour vous, le Concerto Italiano dans le futur, ce serait quoi?
C'est qui reste, parce que je m'approche heureusement à un moment dans lequel j'aimerais aborder d'autres choses après 40, 45, 50 ans, je ne sais pas. Je me vois toujours engagé avec la musique, même avec l'ensemble. Mais avec l'âge qui avance, je me dis qu'il faut essayer de soigner un peu de temps pour des choses qu'on n'a jamais fait.
Par exemple?
Je viens aujourd'hui de terminer un petit livre de philosophe Sénéca, de Brevitate Vitae, comme on dit, de la durée de la vie.
La brièveté de la vie.
Oui, la brièveté de la vie. Et lui, il essaie de stimuler la personne à laquelle le livre est dédié à des activités très personnelles. Lui, il essaie d'expliquer la valeur du temps. C'est pour ne pas arriver à la fin de la vie en regrettant la perte du temps. Alors il dit, ouvrez les yeux. D'autre part, je suis la personne la plus heureuse de ce qui m'a passé dans ces 40 ans. Et il y a encore des intérêts qui sont très forts, il y a encore de projets, il y a encore oui, des rêves. Hein. Mais je suis également content de pouvoir regarder un horizon qui, d'une manière ou l'autre, commence à se modifier. Et je trouve que ce soit juste, qu'il soit physiologique d'une manière ou l'autre. Absolument. Et il y a tellement de manières pour rester en contact avec la musique. Donc, c'est pas demain.
Vous avez trouvé votre idéal sonore ?
Non, parce que je ne sais pas ce qu'il va passer demain. Parce que je suis sûr que demain, il y aura encore une information qui, d'une manière ou l'autre, va modifier. Peut-être va améliorer ma sensation du résultat final. Non, non. La seule chose qu'encore j'aime beaucoup dans ce métier, c'est que je ne peux pas me considérer arrivé, c'est-à-dire je peux pas dire bon j'ai été arrivé à la synthèse parfaite, non absolument pas. Et qu'est-ce que je fais demain si je me sens pas sollicité par un problème que j'ai jamais vu dans ma vie, ce que je fais demain si je peux pas remettre en discussion ou retravailler des aspects d'une partition, voilà, qu'est-ce que je fais si quand j'ouvre un livre je vais lire deux pages, je me dis mais tiens. Alors ça, je ne savais pas, mais ça peut arriver à tous les moments.
Nous avons beaucoup parlé, Rinaldo Alessandrini, de répertoire italien. On a très peu évoqué Bach, c'est pourtant une de vos grandes passions. Vous avez attendu 2005, par exemple, pour enregistrer les concertos brandebourgeois. Et vous, qui êtes considéré comme un des spécialistes du répertoire baroque italien, vous n'osiez pas encore vous aventurer sur les terres germaniques. Vous avez dit, par exemple, qu'en orgue, vous étiez un grand admirateur de Buxtehude.
Oui.
Vous avez enregistré aussi du Buxtehude
au clavecin. Ouais. Mais Bach, moi je pense que c'est un must pour tout le monde de toute façon. Là, un peu comme Monteverdi, on apprend un degré de complexité qui est absente dans la musique italienne, évidemment. Et on apprend à gérer les choses difficiles. On apprend la discipline d'ensemble. On apprend la nécessité de la clarté. Et en même temps, la nécessité de la beauté, de l'efficacité. On apprend le respect de la musique parce que on peut pas vraiment être trop violent avec la musique de Bach. On apprend le respect pour l'idée qui est derrière la musique de Bach. Mais on apprend le marche dans lequel il faut forcément s'exposer en termes de beauté de son, d'intérêt musical, ce qui peut être vraiment l'apport le plus efficace du musicien. Donc il ne s'agit pas de mêler les éléments, mais de faire que tout soit clair, soit transparent.
Mais pourtant, quand vous jouez Bach, Rinaldo Alessandrini, vous avez parfois une manière italienne de jouer Bach. Je pense par exemple au mouvement central du BWV 1057. Beaucoup de liberté, beaucoup de volubilité, de cantabilità.
C'est comme ma prononciation du français. Moi, je ne parle pas allemand, malheureusement. Et sans le vice de la prononciation, disons.
France Musique, les grands entretiens de Rinaldo Alessandrini.
Venons-en au chef, pour ce qui est des autres activités non baroques, on voit bien aussi que vous avez cherché à ne pas rester dans ce domaine qui était le vôtre et d'aller même jusqu'au 19e siècle. Quels sont vos désirs en termes de répertoire, autre que baroque, sur des périodes postérieures?
Mais pour l'instant, je suis content de m'arrêter là où je suis. Ça m'arrivait de diriger fréquemment du Schubert, Mendelssohn, Beethoven. Là maintenant, dans une semaine, je commence un projet qui m'excite beaucoup. Je dirige un opéra de Donizetti au festival Donizetti à Bergamo. Et en même temps, je suis à Barcelone pour diriger le Stabat de Rossini. Et pour l'instant, ça c'est un peu le limite. Parce que de toute façon, c'est un processus d'apprentissage d'un langage que je ne connais pas. Donc, je m'impose une certaine vitesse d'apprentissage. Je ne peux pas mêler...
Les derniers castrats chantés au début dans les quelques premiers opéras de Rossini.
Oui.
Ils ont connu l'ultime fin de l'époque baroque.
Oui, Aureliano in Palmira. Mais oui, non, ça va. Pour l'instant, disons, la limite, c'est un peu ça. Première moitié du 19e. Et après, on verra, mais...
Alors, avec une formation symphonique, comment êtes-vous? Car vous avez déjà, évidemment, dirigé l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Vous avez également dirigé à Lyon.
Enfin, Toulouse, très souvent.
Vous connaissez bien les orchestres français?
Oui, ça m'est arrivé de diriger très souvent des orchestres français, oui.
Et dans des répertoires qui sont parfois des répertoires baroques, mais aussi autre chose.
Oui. Moi, je crois que, avec, disons, un orchestre d'instruments modernes, un orchestre traditionnel, il faut simplement être très clair. Il ne faut pas se perdre dans des discours très philosophiques. Mais il faut aussi savoir toujours justifier tous les choix. Il faut donner l'impression qu'on n'improvise pas, que derrière une certaine choix, une certaine demande, il y a une raison, qu'il y a une vision particulière, qu'il soit même un peu extravagante. C'est pas ça le problème, mais il faut qu'il soit cohérent. C'est plus facile. De toute façon, les orchestres, ils le savent bien. C'est pas une histoire d'amour avec tous les chefs, donc ils sont plutôt habitués à travailler peut-être avec des chefs qui sont un peu plus traditionnels, des chefs avec une imagination un peu plus extravagante. Donc, c'est pas ça le problème. Mais il faut surtout travailler avec respect de l'intelligence de l'orchestre. Ça, c'est essentiel.
Thank you. Rinaldo Alessandrini, vous avez enregistré certains airs de Rossini avec Maria Baio et sur instruments d'époque.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire l'intérêt d'une telle démarche? Rossini, instrument d'époque, Rossini, instrument moderne, ou jusqu'où s'arrête la redécouverte?
Rossini en soi-même, c'est très particulier. C'est-à-dire que c'est un des compositeurs pour lequel la routine et les dangers le plus présent. En général, il s'agit d'une musique qui n'est pas tout à fait facile pour l'orchestre, surtout pour premier violon, le bois. Rossini, c'est un compositeur qui, pour moi, souffre très souvent d'une certaine routine, surtout les opéras les plus connus où il y a la soi-disant tradition, que très souvent, c'est la tradition, c'est la manière dans laquelle le chef avant a dirigé. Et tout ça fait quelquefois la musique abordée d'une manière un peu, je ne veux pas dire trop superficielle, mais on dit, bon, on la connaît. Et on découvre qu'il y a des détails incroyables. Et les instruments d'époque peuvent apporter une certaine couleur qui est différente. Et moi, je sais, il y a des théâtres en Europe qui, quelquefois, vont programmer la musique des opéras de Rossini en disant « Mais de toute façon, Rossini est facile. » C'est-à-dire, oui, mais une fois qu'on a lu, qu'on a joué les notes, ça va. Et bon, je ne crois pas qu'il soit comme ça.
Et jusqu'où cette démarche de redécouverte des œuvres du répertoire peut-elle aller avec des instruments anciens jusqu'à Stravinsky?
Moi,
au-delà,
avec instruments d'époque, c'était la chose la plus tardive que je dirigeais. De Rossini. Mais je sais qu'il y a du Wagner qui était joué avec instruments d'époque. Après Wagner, c'est un peu, comment on peut dire, un croisement, un moment, parce que là, il y a un changement tellement évident de technique de l'archet. Alors, c'est un peu à cette époque qui commence le grand changement de la conduite de l'archet, donc de la sonorité, voilà.
Alessandrini?
Non, mais Rameau, oui.
Justement,
ah,
en
oui.
Musique française, Charpentier, vous avez un peu touché, mais Charpentier, il a étudié à Rome auprès de Carissimi.
Oui.
Il y a quand même des italianismes chez Charpentier.
Oui, non, mais, oui, un peu. Mais...
Vous aimeriez toucher un peu à la musique baroque française?
Ah oui, avec un très grand plaisir, oui.
Par exemple, quoi?
Rameau, j'adore, vraiment. Mais vous savez... Disons que en Italie...
Parce qu'on les a opposés, ces deux musiques.
Exactement, c'est
longtemps.
Ça que je voulais dire. Pour les Italiens, les opposés, c'est un peu la saveur de la vie. Hein. Et donc, comme Italien, après toute cette année passée à jouer et à chanter de la musique italienne, c'est de pouvoir aborder la musique française, c'est exactement de... C'est un tour 180 degrés. Absolument. Non, c'est tout qui soit de la musique absolument géniale. C'est tellement l'opposé de la musique italienne.
Ça permettrait aussi, accessoirement, de réconcilier nos deux nations après les nuages récents suite aux déclarations de Monsieur Matteo Salvini. Vous vous sentez un peu artiste engagé Vous voyez tout ça comment
La politique.
Oui.
Disons qu'on ne peut pas se considérer pas engagé. Surtout parce que, au moins, la manière dans laquelle je ressens tout ce qui passe en Italie, je me sens insulté. Et pas seulement moi. Je trouve que l'intelligence des Italiens soit insultée. On était traités comme des idiots. Malheureusement, avec une très grande tristesse, il faut dire qu'il y a pas mal de mes compatriotes qui méritent d'être insultés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on essaye de passer d'un jour à l'autre, on essaye de tenir sous contrôle la situation. Aujourd'hui, c'est un peu mieux qu'il y a 2-3 mois, mais je me souviens, le mois de août, c'était vraiment un désastre, hein, parce qu'on est arrivé à un moment de telle tension que à ne pas arriver à dormir la nuit, parce que c'est une situation tellement paradoxale, une situation basée sur le rien, mais au même moment, c'était une situation qui avait des reflets tellement évidents, tellement puissants. On s'est senti entouré par des gens qui ont dit, on arrivera à le reconnaître en disant, mais où je vis? Je sais pas. Et finalement, quand tout a collapsé, c'était comme de se réveiller, on a dit, mais... Qu'est-ce qu'il y a passé, effectivement?
Est-ce qu'il n'y a pas une souffrance aussi de travailler, comme vous le faites, en permanence, sur des choses extrêmement humaines? Vous dirigez Orfeo, vous attendrissez sur ce qui arrive à Eurydice, etc. Et puis, le quotidien est vraiment, comme vous l'avez dit, triste.
Il y a une phrase qui était attribuée à Bach, mais je ne sais pas si c'était dit par Bach, qui dit « La musique est quelqu'un qui nous aide pour ne... » entendre le silence qui est dehors. Moi, je ne pense pas qu'il soit de Bach. Mais la musique est quelqu'un qui nous aide pour essayer de vivre dans une dimension qui n'existe pas.
C'est sur le Cum Sancto Spiritu, extrait du Gloria en Ré majeur, Rium 589 d'Antonio Vivaldi, que s'achèvent ces grands entretiens de Rinaldo Alessandrini, qui s'écoutent autant de fois que vous le voulez sur francemusique.fr. Merci à Claire Levasseur, Georges Thau, Flora Sternadel et Christine Amado à la réalisation de ces grands entretiens. À très bientôt sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.